au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour François-Bernard Michel.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts et de l'Académie Nationale de Médecine et vous avez publié un roman intitulé Saint au singulier, S-E-I-N, aux éditions du Rocher. Il s'agit d'un roman. Merci d'être dans notre studio. Pour résumer ce roman en quelques phrases, sans tout révéler évidemment, le narrateur, qui n'est qu'un jeune garçon durant la Seconde Guerre mondiale, au premier chapitre, est ébloui par la vision d'un saint qui par la suite l'obsède. Et dans cette trame, le mystère du saint, merveille de la création, ferme ou malade, se transmet de mère en fille. François-Bernard Michel, vous êtes vous-même médecin, spécialiste des maladies respiratoires et vous avez longtemps exercé la fonction de médecin-chef au centre hospitalier de Montpellier. Vous êtes professeur à la faculté de médecine à Montpellier. Et vous vous intéressez parallèlement à la littérature, aux arts, à la poésie, de votre présence à l'Académie des Beaux-Arts. Ce saint est votre deuxième roman après Judith en 1998. Alors, tout simplement, comment est venue l'écriture de ce roman-ci ?
Eh bien, c'était pour sortir un peu des essais, car la plupart des livres que j'ai publiés, c'est-à-dire une 20-25, étaient des essais chez Gallimard ou Grasset. Et les essais, c'est très intéressant, ça permet de faire le point personnellement sur beaucoup de problèmes, sujets, mais ça n'a pas grand succès. C'est un peu, pour les auteurs, c'est un peu désespérant, parce qu'aujourd'hui, d'abord, beaucoup de gens ne lisent pas, plus ou pas, en tout cas pas des essais. Et alors vous avez l'impression que votre utilité n'est pas absolument décisive qu'en écrivant des essais. Alors j'ai voulu écrire ce roman pour à la fois dire certaines choses qui me tiennent à cœur et en même temps pour retrouver une certaine liberté. Parce que, vous savez, les universitaires, nous sommes des gens un peu ennuyeux, dans la mesure où on nous a appris que pour affirmer quelque chose, il fallait tout de suite après dire pourquoi, il faut citer la référence. Or ça, c'est horrible de toujours devoir se justifier dans les publications scientifiques, en tout cas il faut le faire. Dans les essais aussi, il faut citer la source bibliographique. Alors là, dans le roman, vous êtes libre, ça ne veut pas dire libre d'écrire n'importe quoi, mais de laisser un peu libre cours quand même à l'imaginaire.
Et dans ce roman, il est surtout question du rapport au corps. Vous parliez du rapport entre vos romans et votre essai, et je pense que c'est ça aussi qui fait lien. Rapport d'un homme au corps féminin, mais pas seulement. Rapport des femmes tondues après la Seconde Guerre, avec leur corps méprisé par la foule. Rapport d'un patient avec sa propre maladie. Rapport du médecin aux malades. Et ces saints que vous décrivez sont tour à tour lumineux ou vénérés, cancéreux ou opérés, vivants ou morts, surprenants même ou parfois vulgaires. C'est donc ce rapport au corps qui fait le lien entre vos essais. C'est cette pensée-là que vous souhaitiez transmettre ?
Oui, je le crois. Le corps, on en parle beaucoup. En fait, moi, je n'ai jamais vu de corps. Bien que j'ai été médecin toute ma vie, j'ai vu des corps quand j'étais prosecteur d'anatomie. J'ai vu des choses...
Tout comme le narrateur.
Oui, qui étaient comme raides comme du bois noirci par le formol. Là, oui, c'est des corps. Mais tout le reste du temps, je n'ai pas vu des corps. J'ai vu des êtres qui parlent, qui pensent, qui agissent, qui se mentent ou se mentent. Mais des êtres vivants. J'ai vu des corps et âmes. Et alors, ça a l'air d'être un petit peu inintéressant ce que je dis là. En fait, nous vivons encore beaucoup trop sous la dichotomie l'âme et le corps, l'esprit et le corps, etc. Des notions platoniciennes, mais d'autant plus usitées qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, l'âme, l'esprit, qu'est-ce que c'est, oui. Or, on n'insiste pas encore assez, notre civilisation, en dehors de toute médecine, est encore trop imprégnée par ce dualisme. Alors, il y a des gens de bonne volonté qui ont cru régler le problème en ajoutant un tiret entre les deux. Psychosomatique, voilà. Alors là, on est content, pas du tout, on n'a fait que pérenniser la dualité. Et cette histoire de psychosomatique a profondément perturbé des générations de gens, de malades, à qui on disait « mais calmez-vous, c'est les nerfs, c'est nerveux ». Dieu sait si on a répété ça à Proust, nerveux, nervosisme, névropathe. Et bon, c'est complètement stupide et c'est contredit par l'actualité scientifique, à savoir, nous savons très bien que notre cerveau a les mêmes récepteurs cellulaires que nos globules blancs du sang circulant. On appelle le sang d'ailleurs le cerveau mobile. Donc bon, tout ça, ça a l'air un peu théorique, mais non, il faut le répéter. Nous sommes une globalité, nous réagissons tous avec cette globalité. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas rare d'entendre des malades qui vous disent « Ah ben, maintenant, ça y est, j'ai un cancer du sein comme ma mère ». Et cette espèce d'identification leur a permis de parler à une mère parce qu'elle ne s'était jamais parlé, elle s'était même quelquefois détestée, etc. Et on a trouvé là une approche un peu de lien avec une mère, avec quelqu'un de la famille. Et surtout, on a ouvert un dialogue qui n'avait jamais eu lieu.
Un corps qui, comme vous le soulignez avec Roland Barthes, est historique, hein, qui porte sa propre histoire.
Oui.
C'est ça que vous
qui oui, est fort nous, dans ce livre. Oui, nous sommes tous inscrits oui, dans l'histoire. Notre histoire, bien sûr, mais elle est mêlée à celle du temps, à celle des autres. Et quand on a la chance de vivre quelques bonnes années, on voit bien que notre évolution est marquée par l'histoire H majuscule. Et justement, je parle un peu trop peut-être de la guerre, Seconde Guerre mondiale dans ce livre, et on entend tendance à dire « basta la guerre, affichez-nous la paix maintenant, c'est loin, c'est fini ». Eh bien, je parlais tout à l'heure avec un confrère de l'Académie des Beaux-Arts, qui est le photographe Lucien Clergue, et on parlait de ces gens qui pleurnichent toute leur vie parce qu'ils ont été victimes, plus ou moins proches de la guerre, hein. Et bon, alors il y a les pleurnicheurs, et puis il y a ceux qui disent « bon, mais la guerre, d'accord ». Mais que nous soyons dans une catégorie ou une autre, ma génération, on ne peut pas échapper à cette marque de la guerre. L'enfant que j'ai été a vu des promener dans la rue des femmes tondues. Il a vu des enfants juifs qui disparaissaient de l'école tout d'un coup, de la classe, qui venaient plus le lendemain sans qu'on sache pourquoi. Il a vu les soldats allemands qui défilaient. Et ça, c'est absolument impossible à effacer. Avec des notions d'angoisse, de peur qui se pérennisent, hein, peur de tout. Une grande sensation, sentiment d'injustice, de traumatisme, hein, affectif, bien sûr. La mort qui rôde par là dans les bombardements. Et bon, à la fois, il y a un handicap définitif là, pour la vie, mais il y a aussi une source, d'une capacité de relativiser et d'ouvrir les yeux. Par exemple, quand on voit des jeunes d'aujourd'hui qui grattent sur les murs CRSS et tout ça, non, c'est pas possible tout ça. C'est...
Et peut-être justement un rapport au corps différent, puisque c'est un rapport à la vie et au monde différent.
Oui, absolument. Il en est issu pour moi de ces souvenirs fragmentaires mais très très vifs, souci de grand respect du corps. Quand on a vu tous ces corps bafoués, corps d'enfants, corps de femmes, etc. Car dans un précédent roman, Judith, j'avais raconté une histoire abominable, je ne sais pas s'il faut l'évoquer ici au micro. Eh bien, elle est très simple. J'ai vu disparaître une enfant juive qui était un peu une amie de jeu de l'immeuble où j'habitais. Tout d'un coup, elle a disparu, on ne l'a plus revue. J'ai essayé de reconstituer un peu son parcours et je me suis aperçu qu'elle était allée avec les enfants d'Izieux, vous savez, ces enfants que Klaus Barbie a amenés et dans le camp de concentration, ils ont disparu. Et entre-temps, un de mes patrons, qui lui avait été détenu à Auschwitz, m'a dit qu'aux frontières de son camp, il y a des enfants qui venaient s'accouder, agripper au grillage. Et il était frappé par le fait que ces enfants avaient des coups énormes, déformés. Et il a appris que le médecin de ce camp injectait des bacilles de corps virulents à ces enfants pour voir ce que ça donnait. Vous imaginez l'intérêt scientifique de ce genre de truc. Quand vous injectez les bacilles de corps, évidemment, vous injectez la tuberculose, on ne peut... Bon. Donc c'est abominable. Et je fantasme, mais il me semble que cette petite fille qui était charmante, Judith, est peut-être morte odieusement avec un médecin en plus que le père, qui est un ami, qui a échappé à Auschwitz parce qu'il était parti de la colonie d'Izieux avant la fin. Son père l'a prénommé Adolphe parce que son père lui a dit, tu sais, le chancelier Hitler est un monsieur qui peut-être va sauver la Pologne. Enfin, voilà.
comme beaucoup de petits-enfants à cette époque. Oui. Ce qui est étonnant, pour revenir à votre roman Saint, c'est que le narrateur parle très peu du sien, de son corps propre. Tout juste est-il malade à un moment de l'histoire, mais il s'agit d'un coup de spleen, plutôt d'une sorte de dépression passagère. Et de même, le rapport du narrateur au corps de l'autre est compliqué, tumultueux, distant, sauf à la fin du roman. Est-ce que c'est une distance qui vous semble saine, nécessaire ? Pourquoi est-ce que le narrateur est si distant avec son propre corps ?
La pudeur, sûrement. La difficulté à parler de moi, qui était congénital. Mais...
Parce que le narrateur, c'est vous.
Oui, dans une certaine mesure, oui. Et... J'ai aussi un retard, une tare définitive, c'est que j'appartiens à une génération où on ne parlait pas de soi, où il y avait une distance avec le corps, une excessive, etc. Et puis j'évoque aussi quand même dans ce livre le rapport singulier que nos patrons de l'époque avaient avec le malade. Et je raconte que mon patron, qui par ailleurs était un homme plein de qualités, qui avait des fiches pour chaque malade, et il y avait des numéros, et il y avait l'utérus de la chambre 4, la vésicule biliaire de la chambre 10, etc. Le malade était rapporté, résumé par son diagnostic, et le malade n'avait pas la parole, il était privé de sa parole, c'est-à-dire que moi je sais ce que vous avez, vous ne savez rien, alors taisez-vous. Et parce que tous ces gens qui étaient pas dépourvus d'intelligence, ignoraient quelque chose de fondamental, c'est que nous avons tous sur notre propre corps une vérité propre, qui est indispensable, qui est fondamentale, et qui est notre vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité scientifique, mais ça veut dire que pour une femme, les mots sein, utérus, etc., ça ne veut pas dire la même chose que pour le médecin qui emploie ces mots. Et ça, c'est une grave, considérable erreur qui a câblé la médecine pendant des générations. On a ignoré ça, on a ignoré que... Alors, il a résulté ce dialogue atroce entre des gens, en particulier les femmes. Je suis très, très admirateur des femmes à cause de leur sensibilité. Des femmes à qui on disait des choses d'une brutalité incroyable, comme ça, de très bonne foi. Et puis tous ces gens, pardonnez-moi encore un mot, ces gens qu'on montrait tout nus comme ça sur une table d'amphithéâtre aux étudiants en médecine, en disant, voyez, ça, c'est une tare définitive, c'est une infirmité. On insistait sur ces mots devant ces gosses qui évidemment avaient les oreilles tout grandes ouvertes.
Et le narrateur évolue dans ce roman. Son regard change
par rapport à ces êtres, bien sûr.
En tant que jeune médecin, que médecin étudiant. Propre évolution aussi que vous décrivez là.
Nous n'avions aucune espèce d'enseignement de psychologie élémentaire, l'inconscient, tout ça, l'importance de l'inné, de l'acquis, tout ça. Nous ignorions tout ça. Nous ignorons justement l'écoute des malades.
Dans quelles années ça s'est fait, cette
transition ? À mon avis, un tournant décisif autour des années, d'abord mai 68, et puis 70. Moi, je veux dire que pour ma part, et puis ça a été le cas de la médecine en général, mai 68 a été important. Parce que tout d'un coup, on s'est aperçu que les notions d'autorité, ça ne reposait pas sur le titre, sur la fonction, etc., mais sur la capacité à se comporter humainement. Et alors là, il y a eu deux types de réactions. Mon patron, par exemple, qui n'a jamais rien compris, il a dit, ça y est, tous des crétins, il a refusé de... Bon, il s'est enfermé dans une espèce de... Et puis nous, ça nous a ébranlé, les gens de ma génération, mais on a voulu quand même suivre, on a voulu comprendre, on a ouvert les yeux.
Vous-même, vous êtes formé en psychologie ou en psychanalyse ?
Non, mais je vais vous dire mon parcours. Je me suis beaucoup occupé d'asthme bronchique. L'asthme, c'est une curieuse maladie qui fait que les gens, les asthmatiques, lors de la crise c'est un sommet, hein, comme la crise du pétrole, la crise de la bourse, et au cours de laquelle l'asthmatique a l'impression qu'il va mourir, ou en tout cas il vous donne l'impression, il mime la mort. Bon, c'est très impressionnant, mais il ne meurt pas. Trois quarts du temps, il guérit, ça se passe très bien. Et alors, alors j'ai promu un peu, je ne veux pas là me vanter, mais en France, l'asthme n'était pas très connu, donc je me suis attaché à l'asthme, et j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine. Et au bout d'un certain temps, à force de voir des asthmatiques, quand même, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? C'est très curieux, ces gens qui ont l'air de mourir, et puis qu'après coup, rigolent, là, sont très heureux. Et alors, c'est les écrivains qui m'ont expliqué que c'est l'asthme, parce qu'eux, ils ont compris, Proust, Queneau, Paul Valéry, L'écrivain a deux qualités. Il passe sa journée à s'introvertir et puis il sait formuler ce qu'il ressent. Et alors Proust, il a tout compris sur l'asthme. Alors, si vous voulez, j'ai fait un peu ma psychanalyse avec Proust et avec d'autres. Je ne suis pas passé par le divan. Mais ces gens m'ont beaucoup appris, car ce sont des experts.
François-Bernard Michel, dans votre livre, vous citez beaucoup Paul Valéry, et c'est également le cas dans votre entretien avec Jean Bernard, dans un livre que vous avez écrit, Médecine hier, médecine aujourd'hui. Paul Valéry est un auteur qui a beaucoup alimenté votre réflexion sur le rapport entre corps et psyché, entre corps et âme. Est-ce que c'est quelqu'un qui un peu vous a initié à l'écoute de l'homme, qui a joué dans votre vie le rôle d'Hector dans le livre, un jeune infirmier qui est formé à la psychanalyse et qui ouvre le narrateur à une autre approche du malade?
Oui, absolument. D'abord, vous savez que Paul Valéry, c'est mon concitoyen. Il a été étudiant à Montpellier. C'est là qu'il a rencontré André Gide. Il y a eu des entretiens dans un jardin public qui s'appelle le Pérou. Ensuite, oui, Jean Bernard était très intéressé par Paul Valéry. Et nous avons eu ensemble organisé des colloques où on essayait de voir quel pouvait être l'impact de la pensée médicale de Paul Valéry. Il y avait du médecin rentré un peu chez Valéry. Et vous savez qu'il était très curieux, Valéry, tous les matins à 5h, il écrivait dans ses cahiers, il écrivait surtout, mais aussi sur la médecine. Et puis, il est allé voir des médecins pour les questionner, etc. Donc Jean-Bernard s'intéressait, il y a eu un colloque à Montpellier sur Paul Valéry et la médecine. Et alors moi, à titre plus personnel, Paul Valéry m'a intéressé parce que, vous savez qu'il, tous les matins, en même temps qu'il écrivait, il avait la première cigarette, Fumata Matutina. Et il a fini avec une bronchite asthmatique. Bon. Et alors, il avait aussi de l'allergie. Et il déplorait, Paul Valéry, son hypersensibilité. Hypersensibilité qu'il a joué de mauvais tour, parce que là, il faudrait encore ouvrir tout un livre. Cet homme qui, après la nuit de Gênes, un épisode déterminant dans sa vie, parce qu'il était amoureux d'une baronne montpellérienne, à laquelle il n'a jamais pu faire l'aveu. Donc, la nuit de Gênes, il décide, l'amour, c'est fini, ça n'existe pas, les passions, les mathématiques, plus d'amour. Mmh. Et voilà que cet homme, M. Teste, qui voulait se priver de toute passion amoureuse, a passé le reste de sa vie dans des passions amoureuses. Fermons la parenthèse, on pourrait en parler plus longtemps. Et alors, il déplore sa sensibilité. Il dit, je suis trop hypersensible, mon affectivité, tout ça, ça me nuit, c'est mon ennemi. Et il apprend qu'un chercheur de l'Institut Pasteur, Besretka, travaille sur un vaccin contre l'allergie. Ah, voilà ce qu'il me faudrait, moi. Il faudrait vacciner mon hypersensibilité. Donc, vous voyez, l'allergie est décrite depuis 4, 5, 6 ans. Et hop, il a repéré l'allergie affective et la désensibilisation affective par rapport à l'allergie biologique. Là, un rapprochement. Alors, le plus stupéfiant, c'est Henri Michaux, qui ont dit « Mais enfin, pourquoi vous avez abandonné la poésie pour la peinture ?» Ben, il a dit « En poésie, moi, je n'arrivais pas à faire ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu provoquer chez le lecteur l'anaphylaxie. » Et l'anaphylaxie, c'est un phénomène allergique très, très grave, mortel quelquefois. Vous savez, après une piqûre d'insecte, après avoir mangé un aliment auquel vous êtes allergique, provoque un choc gravissime, ou si vous n'avez pas là le SAMU, le médecin, l'injection d'adrénaline, vous mourrez. Alors je trouve que des écrivains, des poètes qui retiennent cette notion d'hypersensibilité et d'hyperréactivité est très intéressante. Alors là, je crois que j'ai évoqué un peu Paul Valéry, de l'homme très attachant.
Et pour revenir à votre livre d'entretien avec Jean Bernard, on peut faire le parallèle entre ce roman saint et puis vos entretiens avec Jean Bernard. Vous abordez la poésie et la littérature dans un chapitre, et dans ce chapitre, vous finissez par parler justement du rapport entre corps et psyché, vous parlez de Paul Valéry, vous parlez de psychanalyse. C'est donc que poésie, littérature et psychanalyse ou psychologie sont si proches, sont si imbriqués.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui manque probablement beaucoup à la médecine d'aujourd'hui, c'est qu'elle oublie d'être humaniste, elle oublie son objet, sa raison d'être. Pourquoi ? Parce que la technologie médicale est envahissante, et tant mieux. parce que vous vous rendez compte qu'en quelques minutes, voir un être humain en trois dimensions, c'est fabuleux. Ça évite, d'abord, ça permet le diagnostic, et puis ça évite tout des tas d'examens douloureux, pénibles et infructueux qu'on faisait par le passé. Mais il y a un inconvénient, évidemment, c'est l'informatisation, la sécurité, socialisation, la paparasserie, etc., qui fait qu'on perd un peu de point de vue de l'humain. Et mes jeunes confrères, mes jeunes élèves, qui sont des gens tout à fait remarquables, hein, dignes de confiance, passent des heures le soir à leur mail, à recevoir des mails du monde entier, à répondre, etc. Ils ne passent pas la contre-visite dans les salles avec des malades qui attendent là que le médecin passe. Hein. Mmh. Alors ça, c'est...
Vous trouvez que ça ne se transmet pas, cette sensibilité
oui,
que vous
sûr,
avez acquise?
Bien sûr. Or les poètes, les médecins ont énormément à apprendre aux médecins. Il y a des malades qui me disent, quand je suis entré dans le cabinet de mon médecin, il me tournait le dos, il avait les doigts sur le clavier de l'ordinateur, il voulait taper l'état civil. Déjà, il ne m'a pas demandé pourquoi je suis venu. Il voulait me taper nom, prénom, adresse, etc. C'est caricatural, mais c'est pas faux. Alors que, par exemple, Raymond Queneau a un très beau passage. Il parle du poème. Le poète ne sait pas ce qu'il va dire quand il dit « Tiens, je vais faire un poème ». Il a une feuille de papier blanc. Et alors Queneau dit « Ben, j'ai une crise de rhume des foins. Ça coule un peu sur ma feuille, etc. J'éternue. » Et puis hop, il y a quelques mots qui sont apparus sur la page blanche. Je vous cite là de mémoire. Il a une formule très jolie pour expliquer cette liaison entre une crise d'éternuement de rhume des foins ou d'urticaire, d'eczéma, et puis un acte créateur. Alors, il ne faut pas évidemment caricaturer et dire qu'on ne peut être génial que si on est malade, enfin, tout ça, c'est cliché. Mais séparer l'esprit et le corps, l'œuvre et l'auteur, comme on tend encore beaucoup à le faire, c'est une erreur.
Et pour aller plus loin, comment est-ce que vous liez la médecine et l'écriture? Vous êtes plutôt porté sur la psychanalyse, sur la réflexion métaphysique, sur la philosophie?
Alors, la psychanalyse, je n'ai pas réalisé personnellement, mais je trouve que le mérite de monsieur le docteur Sigmund Freud a été immense de mettre noir sur blanc des idées que certains avant et après lui ont eues, hein, comme Janet et d'autres psychologues français, mais là, c'était posé. Alors de là à devenir idolâtre de Freud, c'est pas mon truc. Et je suis un peu navré de voir tous ces psys, analystes ou autres, qui passent tout leur week-end à se regrouper à 10 ou 15 ou 20 avec le bouquin de Freud et ils prennent un mot comme tiré de l'évangile et ils passent leur week-end là-dessus. Mais M. Freud, si on le lit attentivement, il a commencé par être un scientifique. Il était au microscope, il regardait les neurones. Et il a dit, mais moi je dis ça dans les années 20, mais sûrement après. Et je suis sûr qu'aujourd'hui c'est un homme qui serait très heureux, parce qu'il aurait pu faire le lien entre justement l'esprit et le corps avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, des sciences cognitives, etc. Et alors idolâtrer la psychanalyse comme ça, en faire quelque chose d'autonome, c'est absolument aberrant. Sans nier pour autant, encore une fois. Et psychiatriser la médecine, c'est pas mieux. Les gens n'ont pas, le trois quarts des malades n'ont pas besoin de psychiatrie. Ils ont besoin qu'on les écoute, quitte à ce que, si le discours est trop compliqué, on dise, bon, ben allez voir un spécialiste.
Et quant à la réflexion métaphysique, c'est quelque chose sur
alors,
lequel vous
oui,
êtes porté.
La métaphysique, j'y crois beaucoup, car, vous savez, on oublie trop qu'à côté de la métaphysique, il y a la métabiologie. On ne parle pas assez de la métabiologie. C'est-à-dire que moi, je suis né avec des gènes, avec des chromosomes, etc. Mais toute ma vie, toute mon hérédité va être modifiée par mon comportement, par ma façon de penser, etc. Et au-delà des gènes, il y a l'épigénétique. Et ça veut dire donc que rien n'est rigide, rien n'est figé. Et il faut absolument scruter cette dimension de l'être humain. L'être humain, c'est quelqu'un en devenir, et pour le croyant que je suis aussi, ces débats entre créationnisme et évolutionnisme sont totalement stupides. Il n'est pas interdit de penser que Dieu n'a pas donné comme ça la création clé en main. Il a confié à l'être humain son intelligence, et Dieu sait ce qu'on en a fait de cette intelligence. On vole plus haut que les oiseaux, on descend plus bas que les poissons sous-marins, donc... De là, l'évolutionnisme est même magnifique.
Pour revenir à un autre auteur que vous citez beaucoup dans votre livre, il s'agit de Valérie Larbaud, un auteur que vous appréciez, au point où vous prêtez au narrateur l'écriture d'un ouvrage d'études sur Larbaud qui s'intitulerait « Mon Larbaud ». Alors, quel rapport est-ce que vous vous entretenez avec les écrits de Valéry Larbaud, avec sa vie, puisqu'il a vécu longtemps à Montpellier? Comment est-ce que vous l'avez découvert?
Alors, je l'ai découvert par Montpellier parce que il y a séjourné longuement à l'hôtel, bien sûr, dans une suite avec des répétiteurs qui venaient le voir tous les jours. Et alors, ce qui est fascinant chez cet homme, c'est que celui qui aurait dû devenir un enfant raté, mais complètement raté, car il est milliardaire à 8 ans, mais il est aussi orphelin. Il est élevé par une mère et une tante possessives, angoissées, qui le matraquent psychologiquement comme c'est pas permis. Mais donc, il aurait pu devenir vraiment un gosse, l'affreux Jojo. Hein. Et pas du tout. De sa condition, de sa richesse, il fait un plus. C'est-à-dire qu'il devient poète, il devient écrivain, il devient traducteur, il devient passeur de joie. C'est-à-dire qu'il lit beaucoup, comme un fou. Et il fait découvrir aux gens des auteurs. Hein. Il écrit lui-même des choses très remarquables, dont certaines ont pour thème la ville de Montpellier. Et c'est un homme infiniment attachant.
Et il est entré à l'Académie française pour compléter le tableau.
Voilà. Et alors, il a vécu dans des chambres d'hôtel, beaucoup à Paris, parce qu'il est de Vichy. Donc, on le traîne chez tous les médecins parisiens. On le fiche à l'hôtel du Louvre et puis il reste là du matin au soir. Il y a un maître d'hôtel qui vient lui dresser une table avec la nappe, avec des. Est-ce que monsieur est servi? Tout ça. Bon, très bien. Mais le malheureux, il s'ennuie. Alors, il lit. Il lit, puis il observe par sa fenêtre à la place du Palais-Royal, etc. Et il écrit des choses fantastiques. Et puis alors, le dernier acte de sa vie, il a un accident vasculaire cérébral autour de la cinquantaine, assez jeune. Hein. Il est aphasique, le roi du langage. Et il va passer 20 ans paralysé, aphasique, avec des phrases dans le genre « Bonsoir les choses d'ici-bas », etc. Donc un courage fabuleux. Non, là, puis alors, l'écriture est très appréciée des vrais romanciers. Oui.
Oui, c'est une très belle écriture, très resserrée. D'ailleurs, nous allons proposer une émission avec Michel Déon sur Valéry Larbaud.
Oui, Déon aime beaucoup Larbaud. Oui.
Est-ce que vous auriez aimé écrire ce livre sur Valéry Larbaud? D'où vient cette idée que le narrateur écrive un livre sur Larbaud?
Même parce que je l'ai beaucoup étudié là pour ce roman et j'ai vraiment envie d'écrire.
C'est votre prochain projet?
Bien, j'en ai parlé à un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Pontalis, chez Gallimard. Il m'a dit, bon, il n'a pas l'air emballé. Alors, Larbaud, pour le moment, s'endort un petit peu. Mais, je sais pas, peut-être on n'a pas besoin de lire sur Larbaud. Vous savez, j'en suis au stade où je me demande de quoi on a besoin.
De plus de vos livres, quels sont vos prochains projets à vous?
Alors, je suis en train d'écrire une étude, pas comparative, mais enfin, une étude croisée, Marcel Proust et Samuel Beckett. Deux corps souffrants. Pour essayer de montrer les mots du corps. Car là aussi, j'ai eu une méprise totale avec Beckett et son œuvre. Figurez-vous que quand j'étais étudiant, il y a une camarade d'amphithéâtre, de faculté, qui s'est jetée sous le train. Et dans le petit reportage du journal local, le lendemain, le journaliste a cru bon d'ajouter, la veille, elle avait vu jouer Oh les beaux jours. Alors, je pense que vous connaissez Oh les beaux jours, c'est pas particulièrement, évidemment, réjouissant. Je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, il y a eu quand même une liaison entre la pièce et puis le passage à l'acte. Peut-être cette fille était dépressive. Alors, j'en ai voulu à Beckett, mais de façon terrible. J'ai toujours refusé Beckett. Jusqu'au jour où j'ai compris que. Puis alors, j'en voulais aussi parce qu'il occulte le corps complètement. Vous connaissez Madeleine Renaud, serrée jusque-là. Qu'est-ce que c'est ce mépris du corps? Et pas du tout, c'est un contresens total. Il méprise pas le corps. C'est un procédé à la Descartes qui consiste à amputer successivement tous les éléments du corps pour étudier ce qui reste, c'est-à-dire la voix, la parole. Donc là, je me suis aperçu que M. Beckett était un grand bonhomme.
Merci beaucoup François Bernard Michel.
Merci à
Je
vous.
rappelle le titre de votre livre. Il s'agit d'un roman intitulé Saint aux éditions du Rocher. Merci d'être venu. Bonne journée.
Merci à vous.